Donc on termine le colloque. Je vous remercie d'être encore là. Vous devez être un peu fatigué depuis ce matin. J'espère que ce colloque, vous l'aurez trouvé nourrissant, surtout après la diète forcée que nous ont imposé les conditions sanitaires. Donc on va clore cette journée qui s'est ouverte quand même avec un hommage à Jean-Michel Fourcade, qui a été porté avec brio et émotion par Christine Bonnal. Je vous propose de partager quelques réflexions. Alors, on les partage aussi parce que cet hommage et le parcours de Jean-Michel nous rappellent l'importance de la transmission des fondamentaux de la psychanalyse intégrative. L'importance également de notre conviction à la porter, à la faire vivre. La faire vivre, c'est-à-dire l'enrichir à travers de la recherche, mais aussi, et c'est important, à travers des débats contradictoires. La sexualité, de toute façon, est un sujet qui a toujours suscité les polémiques. On voit bien déjà avec Freud, qui a dû affronter la société de son époque pour faire reconnaître l'importance du sexuel infantile dans le psychisme humain, ses mécanismes, ses effets psychopathologiques. Bien plus tard, on a Reich qui s'est intéressé plus particulièrement à la sexualité génitale. Celui-ci nous a fait miroiter une révolution sexuelle libératrice susceptible, au final, de guérir les pathologies psychiques. Et nous, psychanalystes intégratifs et psychopraticiens relationnels et multiréférentiels, nous sommes imprégnés de leurs pensées et de leurs pratiques. Freud, Reich, et nous savons aussi que tous deux se sont heurtés à la morale de leur temps. Donc, thème polémique, mais aussi thème insondable. Les deux vont sans doute de pair. En effet, les contributeurs et contributrices de la journée, de cette tribune, ont tous et toutes insisté sur le mystère de la sexualité, un univers qu'il serait vain de croire maîtrisé et maîtrisable. Et ça, malgré la multiplication des enquêtes quantitatives et prétendues révolutions et révélations que les médias nous proposent régulièrement. Je ne sais pas si vous avez vu le numéro des Inrocks cet été, Sexe 2021, avec une photo hyper suggestive, mais quand même un couple mixte. Ça nous rappelle l'importance de penser ce sujet de manière intégrative, d'où l'idée des intervenants d'aujourd'hui, c'est-à-dire à l'articulation du psychique, du corporel, du politique, de l'économique, du philosophique, du social et du culturel. Historiquement, on se rappelle les années 70, l'engouement des jeunes pour la révolution sexuelle, le droit à l'avortement, sur lequel on revient beaucoup aux États-Unis, la dissociation entre sexualité et reproduction, qui promettait de beaux lendemains. Nous, on s'est intéressé à l'époque hypermoderne, mais déjà, une chercheuse qui s'appelle Annie Boyer-Labrouche, qui, elle, travaillait sur le stade d'avant, c'est-à-dire la sexualité postmoderne, elle soulignait en 2013, dans son article « De la libération sexuelle au marché du sexe », que finalement, la société a mal toléré cette évolution et que la liberté du sexe s'est trouvée remplacée plutôt par un marché sexuel. Alors, c'est une question qui a été posée. Oui, marché sexuel au sens où l'entend Bourdieu, c'est-à-dire un sous-espace social. Or, ce sous-espace social, il est marqué par quoi ? Par les traits du libéralisme. Et donc, c'est à partir de ça, peut-être, qu'on peut dire qu'il y a eu une libération sexuelle quand même par rapport à nos grands-mères. Elle a perduré, mais elle a été réinterprétée par la société, les lois du marché et le développement de l'individualisme. La notion de choix est devenue fondamentale, d'autant qu'on le pense illimitée. Entre-temps, s'est perdu certaines valeurs, comme l'harmonie dans la relation, qui était quand même le propre du mouvement hippie. Le flower power et tout ça, c'était des garçons plutôt doux, avec un échange où l'authenticité aussi était en première ligne. Alors, est-ce que nous aurions encore franchi un cap avec notre époque hypermoderne et sa culture renforcée du narcissisme? Est-ce qu'il faut qu'on suive Serge Tisseron quand il voit dans le développement d'Internet et des réseaux sociaux ce qu'il appelle un axe d'injonction à la visibilité, c'est-à-dire, Pierre Wilken nous en a parlé, de cette dimension ontologique, et ce que dit Tisseron, c'est finalement la visibilité est devenue un critère ontologique fondamental pour l'existence du sujet. Ce qui reviendrait à dire, Je vois et je suis vue, donc je suis. Quelle place pour le désir, pour l'érotisme, l'amour et l'intimité en sortaient-ils fragilisés? Pour Albert Schweitzer, ça semble le cas. Il nous a montré ce matin que la sexualité dite atypique prospère dans notre société hypermoderne, qu'elle est affranchie des limites et de l'attachement, qu'elle évite l'engagement aussi, puisque égocentrée et orientée sur l'impétuosité, l'excitation, l'urgence de la décharge, et que le lien s'en trouve malmené. Il a développé cette notion qui est particulièrement intéressante de sexualité du comme-si, en faux self, où l'individu joue un rôle sans être véritablement impliqué en tant que personne. La pratique devient alors un jeu de simulation sans émotion. Il nous a parlé effectivement du fait que l'autre, dans une valeur narcissique, est réduit à un rôle de spectateur ébloui. Les satisfactions sont d'abord égotiques, beaucoup plus que sensuelles, et le sujet ne parvient pas à trouver le plaisir de l'érotisme dans ses différentes expressions. C'est un jeu de qui perd gagne. Si l'autre gagne en valeur personnelle, le sujet, lui, perd de sa toute-puissance narcissique. Ce qui domine le tableau, au final, c'est la peur de la fusion et l'effacement de l'identité propre. Vous vous rappelez qu'il a mis ça en relation, parce que je sais que vous n'avez pas tous très bien entendu, hein, mais pour Hegger, en fait, il y a une forte... Par contre, Clément disait que le podcast est bon, alors n'hésitez pas à aller le réécouter si certains n'ont pas bien pu comprendre entre son accent et le micro. Donc, il a mis ça en relation avec les manques d'une vie infantile où aurait manqué en particulier la relation première avec la mère marquée par un attachement puissant et sécure, donc peu de sécurité, et donc une intériorisation de l'objet difficile et une différenciation difficile qui, nous disait-il, n'a pas été compensée à l'adolescence. Donc, ce qu'on remarque, c'est que le sexuel et le narcissisme se nourrissent mutuellement. Quand on entend ça, je ne sais pas vous, mais moi je me demande comment ne pas penser à ces jeunes patients qui choisissent les rencontres furtives déclenchées par des stimuli visuels, parfois partiels d'ailleurs, si je pense à mes jeunes patients homosexuels qui partent sur une photo de torse par exemple, et craignent l'engagement. Et en même temps, à l'impression qu'ils ont d'être à côté de leur vie, comme si c'était le revers de la médaille quand le moi profond n'est pas engagé dans la relation. Parce qu'on parle de relation sexuelle, mais on a l'impression que quelquefois, il n'y a pas la relation. C'est Reine-Marie tout à l'heure qui disait qu'elle, de temps en temps, elle rappelait à ses patients que dans relation sexuelle, il y avait relation. Donc cet aspect-là est important. Et puis, ça interroge du coup sur la possibilité de construire une intimité, en particulier pour, dans notre société et pour ceux qui ont des pathologies narcissiques. Le philosophe François Julien, que j'affectionne particulièrement, lui, il nous a incité à réfléchir sur la figure de l'intime. Il nous dit que l'intime, c'est étrange, parce que finalement, c'est deux choses à la fois. D'une part, c'est le plus profond de soi, le plus loin auquel on peut remonter, dit-il, et en même temps, la possibilité de partage et d'ouverture à l'autre. Cela convoque à la fois le dedans et le dehors, et leur rapport. L'intime n'appartient ni à l'espace public, ni à l'espace privé. Il nous dit aussi qu'en couple, après avoir osé l'intime et le bonheur de l'être auprès, il faut oser remettre de l'extime cette fois, du dehors, pour que la douceur de l'intime n'épuise pas la possibilité du désir. Si on ramène ça dans le champ de la psychopathologie, ces interrogations sur la capacité à aller vers l'intimité, on pense à la bande de Möbius telle que l'a proposée Anzieu, celle qu'on retrouve dans les manuels de psychopatho pour nous expliquer comment fonctionnent les états limites. Vous vous souvenez, hein, cette bande, effectivement, où c'est un peu comme un grand 8, un peu réversible, avec des trous au milieu, et que donc Anzieu a réutilisé pour parler des états limites et pour nous montrer le moi des états limites. Donc là, on voit bien, effectivement, que ce rapport au dedans et au dehors, il est convoqué chez les patients et dans ses problématiques. Pierre Vilquet, lui aussi, est allé sur la question de la rencontre et il s'est intéressé à l'imbroglio homme-femme. Il a mis l'accent, en fait, sur ce monde baigné dans la complexité où chacun a peur, finalement, de se perdre dans l'autre plutôt que de voir ce qu'il peut gagner dans la rencontre, en découverte de l'autre, bien sûr, mais et surtout, je dirais, en élargissement de soi-même. Il nous a expliqué que la rencontre sexuelle mettait en présence des systèmes hétérogènes, conçus pour se combiner, mais qui n'arrivent pas forcément, voire luttent et s'entre-détruisent. Et pourquoi ? Parce que la complexité psychique et justement la difficulté à aller se connaître soi-même vont aussi faire obstacle, puisqu'on est fait de tellement de parties différentes, les péripéties de notre histoire individuelle sont tellement présentes dans la rencontre des corps sexués qu'il devient effectivement difficile de se rencontrer vraiment. D'où les revendications, les frustrations répétées. Ceux qui sont thérapeutes de couple et ceux qui sont en couple les connaissent. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'il en a moins parlé aujourd'hui, mais chez Pierre Vilquet, c'est que du côté du monde dans lequel on vit, il a parlé de l'importance des images issues du zeitgeist, hein, c'est-à-dire de l'esprit dans lequel, de l'esprit du temps, on pourrait dire. Et il a montré comment ce zeitgeist, on l'absorbe malgré nous. C'est-à-dire, les médias nous font miroiter le sexuel comme source de satisfaction absolue et indépassable, d'où un hiatus entre les attentes et la réalité effective de l'expérience. Il nous dit, et je trouve ça intéressant quand on réfléchit à ces sujets, la différenciation sépare et éloigne, et elle s'accentue dans ce monde complexe où devenir sujet à part entière demande un surcroît de connaissances intrasubjectives de nature qualitative. Donc on voit bien comment quantitatif, instinctuel pur vont à l'encontre de connaissances intrasubjectives et qualitatives. Alors ça m'a fait penser au fait que Facebook proposait non moins de 56 nuances de genre. J'ai pensé aussi à une jeune patiente de 18 ans, homosexuelle, qui m'annonce victorieusement en s'installant en début de séance. « Ça y est, j'ai trouvé qui je suis pan. » Elle s'était pensée bi, puis queer jusque-là. Alors, est-ce qu'on peut parler de connaissances extra-subjectives ? Est-ce que pour elle, par exemple, se mettre dans une case nommée, repérable, est sans doute d'autant plus important ? Parce que quand on est dans une minorité sexuelle longtemps contrainte à se cacher, ou d'une certaine façon innommable, donc trouver le nom, c'est peut-être déjà un premier pas vers quelque chose. Mais vous voyez, par rapport au chemin qu'elle fait en thérapie, comme ça reste extrêmement externe, en fait, cette façon d'avoir trouvé son identité. Alors, Pierre Vilquet, dans son livre, il parle aussi des rencontres sans lendemain, de celles que Alberto, ce matin, nous aurait nommées atypiques. Et il dit des choses sont intéressantes parce qu'il dit, en fait, ce sont des pratiques régressives, archaïsantes. C'est une forme de pré-individualisme. Là encore, on retrouve une forme de négation de la différenciation. Ça simplifie la rencontre, bien sûr, mais c'est au prix d'une négation de l'histoire psychologique de l'individu. Tout ça est bien sûr renforcé dans l'hypermodernité par la rapidité, Marie en a parlé tout à l'heure, l'accélération, la réactivité, la performance, ce monde bardé de contraintes. Et dans ce monde bardé de contraintes, c'est un pari risqué de rencontrer l'autre et de le voir comme un sujet singulier et distinct, et de se voir soi-même comme un sujet singulier et distinct. C'est risqué, pourquoi ? Parce que ça suppose de se dévoiler et de s'abandonner pour son propre accroissement interne. Et ça, c'est difficile aussi parfois à envisager. Il y en a beaucoup ici qui sont thérapeutes de couple. Je pense que chez nous, ça résonne d'autant plus fort. Parce que la sexualité et les rôles homme-femme sont très présents dans ce type de thérapie, y compris dans les thérapies de couple homosexuel, car les rôles hommes-femmes restent des référents forts de leur histoire. À partir de la clinique de thérapie de couple, Egger nous a montré comment, à travers le transfert, la possibilité peut être donnée à certains couples fixés à des stades prégénitaux d'accéder à la tiercéité, d'accéder à une sexualité génitale. Certains des couples que nous rencontrons ne passent jamais ce cap, tout cramponnés qu'ils sont à défendre leurs différences et prêts à recommencer ailleurs la même chose, notamment grâce à l'effet du second marché apporté par les sites de rencontres et les applis. C'est justement ce dont nous a parlé Marie Bergström, qui nous a appris que le développement de ce site amène à une rupture dans l'organisation sociale de la séduction. Elle nous a parlé, je n'ai pas besoin de rappeler parce que c'est frais dans votre mémoire, mais elle a parlé de désencastrement vis-à-vis d'autres sphères sociales, elle a parlé d'insularité, et pour nous, l'insularité, moi, ça m'évoque deux choses. D'une part, les sous-espaces sociaux de Bourdieu, mais aussi les mécanismes de clivage et ou d'isolation que l'on rencontre. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de clivage entre sexualité et conjugalité, entre images sociales et pratiques sexuelles ? Clivage que l'on rencontre beaucoup dans le cas de nos patients limites ou personnalités narcissiques. Serge Tisseron, lui, il ajoute, via Internet, on peut se montrer, mais aussi se cacher. Et je trouve que c'est une dimension intéressante. On a parlé de privatisation, mais il y a aussi une possibilité d'extimité extrême, on pourrait dire, via les réseaux sociaux. Donc, sur le sexuel, Marie a développé comment, chez les jeunes, ça favorise discrétion et expérimentation, augmenter son vivier quand on se remet en couple, le changement des scénarios sexuels, puisque le temps, là aussi, on retrouve un rapport au temps, on est vraiment sur l'espace et le temps, comme il nous a dit, mais le temps, effectivement, est accéléré dans un espace domestique. Et j'ai beaucoup aimé la formule des histoires qui ne font pas d'histoire parce qu'elles échappent au cercle de sociabilité habituel. Donc, on rejoint ce que disait Pierre Vilquet quand il nous disait « c'est difficile de mettre en jeu toute son histoire dans la rencontre à l'autre ». Mais des histoires, Marie, il en existe, si on croit la plainte fréquente entendue dans nos cabinets. Parce que ces rencontres, qui sont peut-être non compromettantes, elles alimentent les récits de nos patients. Je pense par exemple à une patiente d'une trentaine d'années, bardée de diplômes, habituée à fréquenter des polytechniciens et autres énarques, déboussolée par la rencontre sur Internet, via un site de rencontre d'un simple technicien qui lui a fait découvrir le plaisir sexuel et la tendresse. Malgré les sentiments qu'elle ressent, elle se dit amoureuse, elle ne peut pas se résoudre à imaginer une relation durable avec lui. Donc on pourrait dire des histoires sans histoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire au sens construire une histoire dans le temps. Elle ne peut pas s'imaginer non plus de le présenter à sa famille et à ses amis. Leur rencontre doit rester cachée, comme suspendue, hors de l'espace-temps social. Alors, les sites de rencontre ouverts à tous créent-ils une révolution des rôles, des genres et des normes ? Non, plutôt un changement des scénarios sexuels et des conditions d'exercice de la sexualité. On a vu que c'était plutôt les pratiques qui changent, mais pas les rôles de genre. Les hommes gardent l'initiative. S'ils facilitent les rencontres via la privatisation pour la population dont la sexualité est stigmatisée, ils ne transforment pas les normes pour autant. Alors, aujourd'hui, quelles sont les normes dans les rôles de genre ? La même Annie Boyer-Labrouche nous disait que les hommes, ils doivent cultiver leur attrait physique et leur capital sexuel. Ils doivent être performants économiquement et sexuellement. Cette nécessité de performance, on l'a vu, elle entraîne chez eux souvent des inquiétudes qui vont se traduire par la peur de l'engagement, l'ambivalence, le cynisme. Elle parle aussi de ce qu'on pourrait appeler une nouvelle norme et que j'ai trouvé très intéressante parce que ça a résonné par rapport à la fois au groupe de jeunes qu'on fait avec Geneviève, mais aussi plus largement sur les patients. Elle dit « Avant, les garçons ne pleuraient pas, maintenant, ils ne s'engagent pas. » Donc, ça donne à penser. Par ailleurs, les femmes prennent quand même de plein fouet l'inégalité des genres. Leur valeur sociale et personnelle n'est pas définie par leurs revenus et leur capital sexuel, mais plutôt par leur affectivité et leur valeur sexuelle. C'est des thèmes qui ont été aussi développés par Eva Illouz, qui ajoute que les femmes sont aussi freinées dans cette pseudo-liberté par l'horloge biologique, d'une part, hein, puisqu'elles ont des contraintes plus grandes, et aussi leur supposée capacité à prendre soin, qui les enferme dans des rôles domestiques et ou professionnels. Des récits sans histoire, des normes qui perdurent, des difficultés à s'individuer, il en est question dans le cas clinique présenté par notre consoeur Geneviève Sabot avec son vrai talent de conteuse. Nous retiendrons notamment l'anesthésie du patient, en miroir de la sidération de l'analyste, face à l'exposé de la sexualité, thèmes qui ont été travaillés en atelier par Nicolas de Saldehys et Bertha Vega, c'est-à-dire le contre-transfert et la capacité à travailler avec le matériel apporté par le patient en séance. On a vu aussi dans le cas de Geneviève l'importance des corps en présence, sachant qu'on a retrouvé la très souvent cité ses sensations physiques, les sensations du patient, ses attitudes, etc. Sachant qu'Alexandra Polydor a aussi, quand elle a fait son atelier sur la sexualité à l'épreuve de la maladie, a également évoqué les corps et les corps souffrants. L'importance de la créativité, travaillée également par Didier Duhazé dans l'atelier Slamothérapie, qui faisait vraiment envie de loin à voir. Et le lâcher prise, parce qu'il est des moments où on doit cesser de faire couple avec la théorie pour être pleinement présent et suivre le patient dans les espaces inconnus et parfois effrayants de son monde interne. Enfin, l'importance du dispositif individuel et groupe, celui-ci ayant permis de remettre le groupe, a permis de remettre le patient au contact d'autres jeunes adultes et de retisser des liens dans un espace sécurisé. Je garde un souvenir ému, je vais essayer de ne pas pleurer, du jour où Pierre a quitté le groupe de thérapie que nous co-animons pour aller vivre sa propre vie. Toutes ces interventions, enfin, nous invitent à penser notre clinique autour du sujet de la sexualité. En 1997, déjà, André Green, dans son livre qui s'appelle « Les chaînes d'Eros », nous invitait à suivre cette fameuse chaîne d'Eros. Pourquoi ? Parce que pour lui, il est essentiel, en tant qu'analyste, de concevoir la sexualité comme une chaîne érotique, dont l'analyse doit suivre la dynamique, repérer le maillon qui est concerné et les possibilités dynamiques, topiques, économiques, qui poussent à la transformation. Il insiste sur l'importance de l'articulation du rôle joué par les pulsions et de celui attribuable à l'objet. Il pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de dérives vers le seul prisme de la relation d'objet par le fait que les patients plus régressés et que les qu'on a des patients plus régressés que les névrosés et que chez ces patients-là, le rôle étiologique du sexuel infantile est moins évident. Il insiste aussi sur le fait que peut-être on voit moins le côté pulsion, le côté trib, parce que la constellation sexuelle est plus diverse et plus compliquée chez ces patients. Souvent, dit-il, elle est plus bruyante. Alors, cette vigilance à laquelle nous appelle André Green, moi, elle m'a interpellée. Je pense qu'elle doit aussi nous interroger, nous, intégratifs, parce que dans notre monde hypermoderne, le fait que le nombre de personnalités limites, narcissiques, syndromes psychosomatiques s'accroissent, et que chez cela, justement, la constellation sexuelle soit plus complexe, très souvent, ça nous ramène d'abord à aller regarder du côté de la relation d'objet, davantage à nous attacher aux dimensions plus archaïques. Est-ce qu'on laisse parfois, de ce fait, de côté le sexuel infantile ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Est-ce que nous ne sommes pas happés par ces dimensions saillantes et plus bruyantes ? Est-ce que nous serions éblouis, fascinés par ce qui s'y donne à voir et à entendre ? En serait-il de même quand nos patients nous abreuvent de leur récit sexuel ? Sommes-nous là pour savoir ou pour voir ça ? C'est la première question que m'a posée mon superviseur quand je lui ai fait part de mon projet de redevenir psy. Autant vous dire que je n'ai pas fini d'y répondre, 12 ans plus tard. Sexualité, désir, intimité, nous avons levé un coin du voile. Au final, on a peu parlé de l'amour, le si bruyant amour, comme dit François Julien, qui pour une fois est resté silencieux tout en étant très présent en filigrane. Affaire à suivre. Je remercie très vivement, pour finir, les intervenants pour la qualité de leurs interventions, les animateurs d'ateliers pour leur temps et leur engagement. La talentueuse équipe d'organisateurs de ce colloque, Caroline Ulmer-Newhouse, notre secrétaire générale, Emmanuelle Restivo, trésorière, Corinne Strutz, Evelyne Portman, notre artiste, Didier Duazé, notre slammer, Charlotte Collet, Christine Jacquineau, toujours à l'image, et à la communication, François Bidot, le petit dernier qui vient de nous rejoindre, last but not least. Je remercie aussi la très jeune équipe technique, Ulysse pour le reportage photo et Clément à la prise de son. Nos partenaires, la librairie Chan et Reine-Marie Albou pour les cahiers Jungiens. Enfin, les participants à ce colloque, c'est-à-dire vous toutes et tous que nous avons eu tant de joie à retrouver. Vous pourrez également trouver prochainement sur notre site internet le texte de certaines interventions et bientôt les podcasts. Si le colloque, des photos aussi, si le colloque vous a donné envie de nous rejoindre ou de passer l'agrément ou de vous inscrire à la SFPI, vous trouverez toutes les informations sur notre site. L'adresse du site est sur les petites cartes que vous avez devant vous. Et pour finir, si certains souhaitent faire un peu d'exercice, nous serions ravis que vous nous aidiez à ranger tables et chaises. Si certains pensent que j'abuse, ils n'ont pas tort. À bientôt. Merci beaucoup.